Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui a 40 ans déjà, mais qui a marqué l'histoire de cette nouvelle technologie qu'est le nucléaire. L'explosion du réacteur numéro 4 à Tchernobyl en Ukraine à l'époque était, l'Ukraine était à l'époque sous domination russe. En 40 ans, l'histoire s'est écrite. L'Ukraine est devenue indépendante et depuis 2 ans maintenant vit sous le feu de la Russie qui aimerait la réintroduire dans son empire. Yves Lenoir, notre invité, a suivi l'affaire du réacteur numéro 4 depuis son origine. L'information commence à se dévoiler et dans son dernier ouvrage, Yves Lenoir nous en fait part. Mais je voudrais signaler aussi un travail que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs on aura l'occasion d'en rediscuter, qui a été diffusé sur Arte mardi dernier et que vous pourrez voir en replay. De nouvelles informations effectivement nous parviennent et c'est cela que nous allons évoquer aujourd'hui. Yves, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour.
Vous êtes ingénieur de formation, vous suivez les questions nucléaires depuis votre participation à un groupe interministériel sur les déchets radioactifs en 1974-1975. Depuis 1986, vous vous employez à faire connaître les impacts sanitaires réels de Tchernobyl et à soutenir les populations en zone contaminée. Aujourd'hui, vous êtes président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui a été créée en 2001. Vous dépensez beaucoup d'énergie pour financer cet organisme indépendant de protection radiologique du Bélarus, l'Institut Belrad, qui est basé à Minsk. Et nous reviendrons bien sûr sur cette action. Mais tout d'abord, revenons sur l'accident de Tchernobyl. Alors, vous avez parfois une vision un peu ironique sur la manière dont les médias traitent cet événement. Héroïsme, oubli de la manière dont a été géré l'événement, belles images, toujours les mêmes. Alors dites-nous un petit peu comment vous voyez-vous cet accident de Tchernobyl.
Il a eu lieu il y a 40 ans, et tous les 10 ans, puisque en général c'est tous les 10 ans qu'il y a une grande rétrospective, on entend à peu près la même chose, on voit à peu près les mêmes images. Et même dans ce triptyque que Arte a diffusé hier soir, on se rend compte que l'histoire n'a pas été réécrite. C'est-à-dire que ce qui a été raconté, bon, il y a en partie il y a des erreurs, on pourra revenir dessus, mais globalement, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, puisque la base de cette histoire telle qu'elle a été rapportée elle se trouve dans le livre justement de Higginbotham, qu'on voit dans le film, Adam Higginbotham, qui a été publié au milieu des années 2010. C'est donc une information, enfin des informations qui ont maintenant 10 ans.
Bon, alors, vous vous êtes par contre retourné souvent sur les lieux de l'accident. Et j'ai participé d'ailleurs à un des premiers voyages. Nous étions un tout petit groupe. Je me souviens de la radioactivité était partout et nous déplacions avec des dosimètres. Vous y êtes retourné un peu plus tard. Alors, les populations de Pripyat, la ville voisine de la centrale, avaient été relogées, n'étaient jamais rentrées chez elles, alors qu'on leur avait absolument pas dit qu'elles partaient pour toujours. Et la ville faisait partie d'un périmètre interdit. Dès le départ, l'accident a été géré sans information précise pour éviter la panique, dira-t-on. C'est une constante dans la gestion du nucléaire.
Oui, et c'est absolument nécessaire. Quand on revient au premier accident qui a reçu une grande publicité, c'est-à-dire celui de Three Mile Island en 1979, les Américains étaient pris de court, évidemment, puisque ce sont des événements imprévisibles, et n'avaient pas d'iode. Mais l'industrie américaine est très efficace, et en 3 jours, on a fabriqué assez de doses d'iode pour toute la population des alentours.
Alors l'IAD, on rappelle ce que c'est. C'est un médicament qu'on prend pour éviter
on
quoi?
On prend pour bloquer la thyroïde et qu'elle n'absorbe pas l'iode radioactif des rejets qui arrivent toujours quand il y a une fusion de réacteurs. Mais cet iode n'a pas, ces comprimés n'ont pas été distribués pour éviter la panique. En effet, si on prévient à la population qu'il y a un accident avec beaucoup de radioactivité qui a été rejeté, alors, et qu'on prend des précautions à la mesure des risques que les gens vont courir, alors les gens se rendent compte que c'est vraiment très grave et veulent fuir. C'est ce qui est arrivé au Japon après Fukushima. Et il y a eu des réactions qui ont été même un peu aberrantes, au sens où, par exemple, la population du village de Futaba, que son maire dont son maire a organisé l'évacuation, est parti dans la direction du nuage. Et donc ils ont commencé leur parcours en accompagnant le nuage radioactif.
Mais
ce qui
n'était
pas
que...
très malin, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient pas d'informations et ils fuyaient comme ça. Bon.
Mais est-ce que Tchernobyl, justement, c'était pour cette raison? On a plus l'impression aujourd'hui que... on n'a pas informé parce que
Qu'on
s'organise.
Je suis formel. Je prends juste un exemple. Il se trouve que le matin même de l'accident, le général, je crois que c'est Biardov, son nom, du KGB d'Ukraine, est allé dans la ville à 5 heures du matin, s'est rendu compte de la radioactivité et a demandé l'évacuation au ministre de l'énergie qui était déjà sur place. Il était parti de Moscou dans la nuit quand on a appris l'accident. Et le ministre lui a dit « Mais vous êtes fou, vous voulez créer la panique ?»
Et alors ?
Donc c'est clair, on n'a pas évacué les gens parce que il fallait éviter la panique.
Oui, mais en même temps, laisser les enfants jouer dehors.
Mais bien sûr, évidemment. Parce que si on demande aux gens de rester chez eux, on va créer la panique. Non, on ne protège pas pour éviter la panique.
Et alors ?
Cette
non-protection...
Puisqu'on n'a pas protégé, il ne doit pas y avoir de conséquences. Et l'enchaînement absolument infernal du déni des séquelles sanitaires est enclenché.
D'accord. Alors, c'est sans doute de ce fait que les médias ont beaucoup insisté. Enfin, on apprend de plus en plus de choses sur ces, effectivement, deux jours, c'est-à-dire le moment où arrivent les bus, où les populations sont amenées, etc., et où on évite, comme vous dites,
cette...
On le sait depuis toujours.
La conférence de Vienne de juin 86,
absolument.
De l'AIEA à Vienne. Ça, c'est des choses qui ont été racontées par les soviétiques tout de suite.
Mais alors, de ce fait, quand même, les médias font toujours, parlent toujours de ce silence, hein, des héros, des victimes, et surtout de cette population qui a été otage du silence.
Bien, oui, on en parle, mais l'information précise sur les conséquences sanitaires, c'est-à-dire des données médicales, des données statistiques, des données épidémiologiques, des données démographiques, tout cela existe, mais je ne sais pas pourquoi.
Existe maintenant, mais existait à l'époque.
C'est arrivé très tôt. Dès le 10e anniversaire, les médecins et chercheurs en URSS avaient déjà fait beaucoup de travail. Et à la grande conférence de Munich de 2006, la représentante du ministère de la Santé ukrainienne, Angelina Nyagou, a présenté un diaporama extrêmement complet, très chiffré, avec beaucoup, beaucoup d'informations.
Mais on ne savait pas au moment de l'accident.
C'est pas spectaculaire.
Mais tout cela, on ne savait pas au moment de l'accident, déjà. Il a fallu
que
l'expérience...
Les conséquences ne sont pas encore là.
Voilà. Donc, en fait, les autorités n'avaient pas non plus toutes les données.
Alors, les autorités soviétiques savaient très bien que, parce qu'ils étaient préparés, ils savaient quelles étaient les conséquences de catastrophes radiologiques, puisqu'il y en avait eu dans l'Oural, dans le site militaire de Mayak, avec beaucoup de radioactivité dispersée dans l'environnement et beaucoup de populations qui avaient été victimes de la contamination radioactive. Donc, ils savaient très bien. Et les équipes de médecins étaient très formées pour soigner les grands irradiés et tout ça. Donc, ils savaient très bien. il ne faut pas croire du tout qu'ils étaient ignares en la matière. Non, ils avaient beaucoup d'informations et ils étaient bien plus compétents d'ailleurs pour traiter les grands irradiés que chez nous ou aux États-Unis parce qu'ils en avaient eu beaucoup. Et donc c'est tout à fait sciemment qu'ils n'ont pas évacué tout de suite parce que, encore une fois, la chose la plus grave qui pouvait se produire, c'était une panique.
Alors aujourd'hui, par exemple, un accident comme celui-ci arriverait sur La Hague ou ailleurs en France. Et bien sûr, nos populations sont informées puisque... elles ont été informées par le suivi de Tchernobyl, de Fukushima, etc. Donc on aurait ce mouvement de panique et on risquerait de ne pas savoir trop bien quoi faire.
C'est un problème ouvert. Moi, je pense que les jolis plans très détaillés qui sont prévus pour des cas pareils seraient très difficiles à mettre en œuvre, justement par crainte de déclencher des paniques. Les routes sont ce qu'elles sont, tout le monde prendrait sa voiture et on en viendrait aux mains, voire au revolver, pour se frayer un passage.
Ouais. Et alors, aujourd'hui, on commence un peu à voir toutes ces choses-là. Effectivement, vous avez raison, dans les plans qui ont été établis il y a une vingtaine ou il y a une trentaine d'années, on a tout est concret, bien abstrait, et on ne tient pas compte, en fait, des réalités. Alors aujourd'hui, tout un travail de partage des responsabilités se mène aussi, enfin, d'après ce que vous dites, qui est un grand initié du sujet et qui avait beaucoup travaillé sur le sujet. Vous savez que depuis 2001, on essaye, on voit un peu plus clair dans tout cela, mais on découvre beaucoup aujourd'hui que la responsabilité qu'on a fait porter aux techniciens qui gérait la centrale au moment de l'accident, eh bien, finalement, n'étaient pas les seuls responsables. Et on commence un peu à dévoiler le fait que la construction même du réacteur, posait problème. Eh bien, cela nous mène, bien sûr, à la construction nucléaire chez nous.
Oui, là, je suis assez... J'ai été très surpris d'un article tout récent du Monde sur lequel je vais revenir tout de suite, parce qu'il apporte un écho étrange aux déclarations des nucléocrates soviétiques dans les années qui précédaient, et même dans les semaines qui précédaient de l'accident de Tchernobyl. Par exemple, autour de Legasov, qui est présenté comme un héros de Tchernobyl, il y avait un petit groupe d'excités qui publiait sans arrêt des articles, qui étaient signés aussi par Legasov, bien sûr, disant que prendre trop de mesures de sécurité dans l'énergie nucléaire, ça allait nuire au développement économique, que c'était complètement inutile et que dans la vie, il fallait savoir prendre des risques. Et ça, ça a été publié en 87, donc on le sait depuis très longtemps. Eh bien, aujourd'hui, dans Le Monde, il y a une grande interview de Jean-Marc Jancovici à qui on pose une question du même ordre. Je la lis parce que c'est extrêmement court et franchement, ça donne froid dans le dos. Comment financer les nouveaux réacteurs nucléaires très onéreux? Alors, sa réponse. Les réacteurs sont devenus trop compliqués à construire et à faire fonctionner, donc trop chers. Depuis les années 70, on a ajouté tellement de règles que les délais de construction se sont énormément allongés. Est-ce que la population veut suffisamment du nucléaire et donc accepter des règles de simplification sur ce sujet aussi?
Oui.
Mais là, ça donne froid dans le dos, parce que ça veut dire qu'ils commencent à prêcher le fait qu'on prend trop de précautions et que les réacteurs sont trop sûrs.
Mais alors, on sait aussi, je ne vais pas aborder la polémique qui vous oppose, vous et Jancovici, mais que il est favorable à tout le développement nucléaire à venir dans le cadre des mesures qui sont prises aujourd'hui sur le réchauffement climatique. Donc,
oui, mais là, dans ce papier tout récent, il date d'aujourd'hui, publié dans Le Monde, daté de d'aujourd'hui. Il prêche pour moins de sécurité.
Mais ça ne m'étonne pas. Et au moment où on est en train, de, au niveau européen ou au niveau français, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de règles, ou que ce soit de plus en plus simple, après tout, pourquoi pas?
Oui, mais alors à ce moment-là, on entre exactement dans la même logique que celle qui a conduit à Tchernobyl en URSS, c'est-à-dire de négliger la sécurité au nom du productivisme.
Bien. Alors, ça, c'est vraiment ce qui nous attend demain. Voilà. Et donc, ce travail sur le parc nucléaire demain, bon, on en pense quoi? D'abord, il y a bien sûr ces centrales qu'on veut prolonger, mais il y a aussi tous ces petits réacteurs dont on nous dit qu'ils seront sans danger.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que il y a une grande controverse sur la faisabilité de tout ça. Le PR2 n'est même pas entièrement dessiné. Les SMR, c'est en grande partie une escroquerie de start-up. Donc, de ça, j'ai pas grand-chose à dire. Je ne suis pas vraiment un spécialiste. En revanche, ce que je sais, c'est que un accident grave, c'est un événement. C'est-à-dire que c'est pas chiffrable à l'avance. On ne sait pas quand il va se produire, et quand il se produit, on est totalement pris de court. Donc, c'est la seule chose que je puis dire. Alors, un accident grave sur une éolienne, c'est pas bien grave. Hein. Bon, une pale qui se détache, qui ira éventuellement...
Vous allez vous attirer les foudres de la LPO, là, quand même. Vous allez vous... ont perdu leurs aigles.
Oui. Bon... n'entrons pas trop dans ce genre de controverse qui par moment devient tellement ridicule que bon. Mais revenons plutôt au risque que représente un événement de nature radiologique, c'est-à-dire nucléaire, un réacteur qui a un gros problème. Ce qui compte, c'est pas tellement la technologie, puisqu'on ne sait pas vraiment comment l'accident se produira, ni quand. À chaque fois, on a été surpris, c'était des modalités qui étaient totalement pas prises en compte. Non, mais c'est le contenu du réacteur qui compte. Et le contenu du réacteur, c'est l'équivalent pour un gros réacteur en radioactivité de longue durée d'environ 1000 explosions de type Hiroshima, pour faire simple. Bon, à partir de là, ce capital de danger, il est là partout, dans chaque réacteur. Donc, n'importe quelle catastrophe atomique doit être mesurée à l'aune de cette quantité de radioactivité.
Alors...
Et à partir de là, eh ben, que les gens en soient informés, qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de sûreté absolue, parce que sinon, ils deviennent des croyants, et avec une foi de charbonnier, ce qui n'est pas très, honorable, et on n'a pas à croire ce que nous disent les gens qui nous disent qu'on peut faire avec. Non.
Bien. Alors,
tôt ou tard, ça se produira.
Malheureusement, il nous reste qu'une dizaine de minutes et le temps passe très très vite et on a encore beaucoup
vrai.
De choses à voir. Alors, vous venez de rappeler que la radioactivité est un fléau. Et c'est le principal fléau, et c'est un fléau qui tue. Alors, vous vous êtes investi, vous, sur l'Institut Belrad, depuis 40 ans, c'est énorme. De quoi s'agit-il? Qui fait-on? Et aujourd'hui, quelle est votre bagarre, votre...
Alors, je vais faire comprendre la nécessité de l'activité de l'Institut pour protéger les populations avec un seul exemple, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a environ 4-5 ans, je ne sais plus exactement, à 250 km de Tchernobyl, Belrad fait souvent des prélèvements et on lui a apporté des champignons à contrôler, hein, avec ses équipements pour mesurer la radioactivité. Ces champignons étaient contaminés, en pois sec, c'est-à-dire ils avaient été séchés, étaient contaminés à 350 000 becquerels par kilo, alors que la limite de commercialisation pour ce type de nourriture, c'est 2500 becquerels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 30 ans avant, donc juste après Tchernobyl, ces mêmes champignons, ils étaient contaminés forcément au double, c'est-à-dire 700 000 becquerels par kilo, des vrais déchets radioactifs. Donc dans l'environnement du Bélarus, qui est le seul que Belrad contrôle, partiellement bien entendu, ils n'ont pas les moyens de tout contrôler, dans l'environnement du Bélarus, on peut avoir ce genre de situation à plusieurs centaines de kilomètres du réacteur explosé. Voilà la situation que laisse un accident grave sur le territoire.
Et encore aujourd'hui.
Ce sont des aliments qui sont consommés au Bélarus, hein, les champignons, les bêtes ou les produits de la forêt, parce que les gens sont pauvres. Eh bien ça vous induit un nombre de malformations et de maladies liées aux actions des rayonnements qui sont nombreuses et qui sont en plus connues et mesurées.
Alors, malheureusement, je suis obligée d'aller très vite. Belrad, vous avez, pour poursuivre votre action, vous faites bien sûr souvent des appels à des fonds pour protéger les enfants, enfin parce qu'il faut faire durer cet hôpital.
Oui, ça nous coûte, nous versons à Belrad 200 000 euros par an, ce qui représente à peu près 80% de leur budget de fonctionnement.
Et parfois, vous faites venir des enfants
Pas nous. Une autre association, d'ailleurs, qui est une association qui nous soutient, qui nous apporte une partie de l'argent qu'on envoie à Belrad. Ce sont les enfants de Tchernobyl d'Alsace, qui accueillent environ 200 enfants chaque année.
Très bien. Alors, je vais aller vite maintenant. J'avais quand même une autre question en temps de guerre aujourd'hui, que ce soit en Iran ou en Ukraine. Les médias évoquent souvent les risques qui sont liés aux bombes sales, que sont les centrales qui nous font peur avec ça. Alors, est-ce que vous pensez que cet usage des centrales comme arme permet de privilégier davantage les fossiles? Est-ce que c'est donc une astuce que choisissent les gens qui veulent absolument qu'on évite le nucléaire? Ou bien est-ce que c'est possible d'utiliser les centrales comme des bombes?
Alors, l'explosion de Tchernobyl a montré qu'une centrale, c'était une super bombe sale. Hein. C'est même le seul type de bombe sale qui ait une certaine efficience, parce que il n'y a pas besoin de manipuler à main nue beaucoup de radioactivité. La centrale se charge de la disperser dans l'environnement. Non, le risque, effectivement, il n'est pas nul. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les généraux russes ont donné l'ordre à des soldats de creuser des tranchées autour de Tchernobyl pour sécuriser leur point d'appui qui était la centrale dans la forêt rousse, et qu'ils ont pris de la radioactivité à cause de cela. Bon. Donc, on voit bien que par moment, on peut se demander si par moment on a des gens parfaitement responsables à la direction des opérations. Cependant, les Russes, certes, ont tiré un missile sur le super sarcophage de Tchernobyl, mais ils n'ont pas tiré de missile sur les centrales en activité. Parce qu'ils savent très bien qu'à ce moment-là, non seulement ce serait un crime contre l'humanité, mais qu'en plus, ils risqueraient, eux, de recevoir des retombées du fait qu'ils ne maîtrisent pas la météorologie. Donc, je pense pas, moi, que les centrales seront prises pas pour cible, mais un accident est possible.
C'est-à-dire un missile alors, qui évite sa trajectoire. Comme on n'a pas tellement le temps, et je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu du 25 avril, je reviendrai sur ce sujet grâce à vous dans les news de ce mois. Alors, par contre, donc, vous avez organisé le 25 avril un événement à la Bourse du Travail à Paris, une grande rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, cet événement regroupe beaucoup d'associations qui viennent y participer, la CRIRAD, la CRO, le GSUN, le Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, Negawatt, Greenpeace.
Et votre message, c'est quoi?
Ils sont là justement pour traiter les deux volets de notre colloque. Le premier volet, c'est en gros le retour d'expérience de Tchernobyl, comprendre ce que représente ce type d'accident. Et jusqu'au niveau philosophique, bien entendu, parce que la question est vraiment philosophique. Hein, l'accident maximum, c'est pas uniquement une question technique. Et ça ouvre la voie au deuxième panel, à la deuxième table ronde, pour, sur cette base-là, comment estimer la rationalité du programme français, parce qu'il n'y a que les Français qui fassent ça, et qui nous engagent pour un siècle dans la continuation de l'exploitation de l'énergie atomique.
Alors Yves, merci. Vous nous rappelez le titre de votre ouvrage,
L'ouvrage qui vient de sortir, c'est dans les coulisses de Tchernobyl.
Voilà.
Mensonge et dissimulation des nucléocrates. Et c'est produit par les éditions La Dissidence.
C'est ça. Donc on en retrouve des bonnes feuilles dans une revue. Hein,
oui, mais on les trouve aussi sur le, on en trouve d'autres sur le, qui sont en accès libre, bien entendu, sur le site de la Dissidence, qui est très facile à trouver avec le moteur de recherche qu'on a sur Internet.
Très bien, mais je vous remercie Yves. Donc à bientôt sans doute.
Merci Dominique, et à bientôt aussi.
À Montpellier, donc aussi les 40 ans de Tchernobyl.
J'espère bien.
Oui, bien sûr.
Livre,
oui. Donc à Montpellier aussi, eh bien, on va fêter, entre guillemets, les 40 ans de Tchernobyl et cela va nous être à nouveau proposé. Alors, bonjour Didier Lator.
Bonjour.
Vous êtes membre d'Arrêt du nucléaire 34, du collectif Arrêt du nucléaire, de la Coordination nationale antinucléaire et vous avez déjà participé à notre émission et aujourd'hui vous nous invitez.
Ah oui, je vous invite à une séance de cinéma qui se terminera par un petit brunch au cinéma Utopia, dimanche 26 avril à 11h du matin, où on projette un film qui s'appelle La Terre au trajet, qui revient sur la catastrophe de Tchernobyl, en mettant en scène des acteurs qui reprennent exactement les événements de l'époque avec l'accident et puis on voit des gens qui vivent une vie normale et dont la vie est totalement bouleversée, qui se retrouvent quelques heures après en train de partir dans des cars sans emmener la moindre affaire. Voilà. Ça sera aussi l'occasion pour nous d'organiser un débat après cette séance afin de rappeler que Tchernobyl est une catastrophe qui est toujours en cours, puisque y compris la guerre que mène la Russie en Ukraine en bombardant la centrale et en endommageant l'arc de confinement, met terriblement en danger toute cette région, voire au-delà, comme ça a été le cas il y a une quarantaine d'années. Voilà. Donc ces 40 ans pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler que le danger et les radiations nucléaires continuent à couver sous cette arche qui est censée protéger la radioactivité qui est toujours présente. Il faut s'imaginer une masse en fusion, c'est toujours le cas, ça s'appelle le corium. C'est un matériau particulièrement dangereux où il y a des mélanges de ferraille et de matières radioactives en fusion et qui ne demande qu'à s'échapper. Et l'arche de protection a été endommagée. Ça va coûter quelques 500 millions d'euros à la communauté internationale. Et en attendant, la radioactivité menace de sortir. Donc l'actualité est toujours en cours sur Tchernobyl, un accident nucléaire a un début mais n'a pas de fin. On voit aussi que d'autres centrales civiles, d'autres installations civiles sont menacées à Zaporizhia, en Iran, en Israël. Donc on craint effectivement que le pire arrive et on espère qu'on arrivera à l'éviter. Mais on est très inquiet effectivement de la situation présente.
Bien, écoutez, merci Didier et j'espère qu'on sera très nombreux au moins pour participer à ce débat à dimanche. Donc,
voilà, le 26 avril à 11h.
Voilà, dimanche 11h. D'accord.
Merci.
Merci. Et bien, la semaine prochaine, une fois que, enfin, passé ce rendez-vous très lourd sur Tchernobyl, la semaine d'après, nous resterons sur le sujet qui agite le monde, celui de l'énergie. Et puisque les 26 et 27 avril vont se dérouler à Santa Monica, en Colombie, une grande rencontre sur la sortie des fossiles, pétrole, charbon, gaz, dont nous parlera Marc Tudenham, qui est un des experts de ces sujets et qui est aujourd'hui bien d'actualité avec malheureusement ce qui se passe en Iran.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.